Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 33e épisode. Dans cet épisode, je vais parler d'un mythe, le mythe que le BDSM est la même chose que le SM, le sadomasochisme. Première partie, pourquoi parler de ce mythe? J'ai déjà fait plusieurs épisodes sur les mythes du BDSM, donc je répète de façon hyper brève la raison pour laquelle fondamentalement se battre contre les mythes c'est important. Tout ce qui est mythe, idées reçues, préjugés, idées fausses sur BDSM, c'est important de les combattre parce que d'abord c'est une gêne au minimum pour les personnes qui font du BDSM, souvent c'est bien pire qu'une gêne, par exemple être accusé sans arrêt d'être des fous, d'être des malades mentaux, ce genre de choses. Et le deuxième aspect évidemment, c'est que c'est aussi extrêmement gênant pour les personnes qui veulent faire du BDSM, qui n'ont pas encore commencé, qui débutent ou qui voudraient débuter. Parce que évidemment, si on s'intéresse au sujet et que tout ce sur quoi on tombe, ce sont des idées reçues du genre « ce sont des malades mentaux », ça incite pas vraiment à continuer à creuser le sujet, et encore moins à se lancer, forcément. Il est donc très important de remettre les choses à leur place, et de lutter contre toutes ces idées fausses qui sont encore très répandues, et qui portent un très grand préjudice depuis très longtemps au BDSM. Et surtout, évidemment, aux personnes qui veulent en faire ou qui en font. Dans cet épisode, je veux donc parler du mythe qui consiste à confondre le SM, le sadomasochisme, avec le BDSM. Alors que, évidemment, par définition, BDSM c'est la contraction de trois termes différents, BD, DS et SM, donc SM, le sadomasochisme, n'est qu'une partie de ces pratiques. Avant d'aller plus loin, je voudrais souligner l'importance de ce mythe précis. Alors faut que vous compreniez une chose, c'est que le BDSM, vous le savez certainement, c'est encore très mal vu, il y a encore beaucoup donc de préjugés, d'idées fausses dessus, et il y a beaucoup d'attaques encore qui sont faites contre ces pratiques. Toutes ces attaques, qui sont souvent virulentes, viennent avant tout évidemment de l'ignorance, et il y a aussi derrière beaucoup d'hypocrisie, de mauvaise foi, etc., mais j'entrerai pas dans les détails. Ça fait des années que j'étudie le BDSM, et j'ai vu de très près les types d'attaques qui sont lancées contre ces pratiques. J'identifie trois grands axes d'attaque en fait. Le premier type d'attaque, c'est contre tout ce qui est H-Play et DDBG ainsi que les variantes de celui-ci. Alors de façon hyper simplifiée, H-Play ce sont les jeux d'âge, c'est-à-dire typiquement les jeux de régression. Par exemple dedans vous trouvez quelque chose qui est très connu, qui est le adulte baby ou bébé adulte, des personnes qui aiment par exemple se comporter comme un bébé, porter des couches et que quelqu'un s'occupe d'eux comme s'ils étaient un bébé. Le DDBG, ça s'écrit DD, barre de division, BG, c'est Daddy Dom, Baby Girl. Il existe tout un tas de variantes un peu dans le même style, mais je vais parler que de celle-là pour cet épisode. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une personne qui joue le rôle de quelqu'un qui est plus jeune. Alors les âges peuvent varier, Et par exemple, la personne va faire des choses du genre des coloriages et des choses comme ça. Les pratiques qu'on appelle à l'heure actuelle des DBG et toutes les variantes sont quelque chose de relativement récent. Du moins, ça fait pas très longtemps qu'on a commencé à en parler ouvertement, en tout cas. Comparé par exemple au Adult Baby qui lui était tellement connu que même quand j'étais jeune, j'avais entendu parler de ça. Ces pratiques-là sont particulièrement visées par les ennemis du BDSM qui utilisent évidemment l'argument, peut-être que vous en doutiez déjà, que c'est de la, entre guillemets, pédophilie. Alors je vais pas entrer dans les détails de pourquoi c'est totalement odieux et stupide de dire des choses comme ça, mais je vais juste vous dire que les personnes qui utilisent ce genre d'argument, d'abord n'ont jamais recherché ce que voulait vraiment recouvrir ces types de pratiques. Il y a une mauvaise foi absolument totale, Et la raison aussi pour laquelle c'est visé particulièrement, c'est que depuis un certain temps, c'est devenu le grand épouvantail, le pédophile entre guillemets, c'est l'épouvantail moderne. Donc toutes les personnes qui veulent démolir le BDSM au sens large sont prêtes à utiliser tous les arguments les plus spécieux, les plus odieux, et d'utiliser le spectre du pédophile entre guillemets, c'est une de leurs stratégies préférées en fait. Alors que, je me répète, pour être bien clair, ça a rien à voir, sont deux univers différents. Et en plus de ça, pour en rajouter, je précise, les personnes qui utilisent ce type d'argument sont totalement hypocrites, à la fois sur la définition de H-Play, DDBG, etc., mais aussi sur la définition de pédophilie. Donc c'est vraiment pas très beau à voir. Je vous passe les détails parce que j'aurai de quoi en parler pendant plusieurs heures, mais ça, c'est devenu, depuis un certain temps, un gros angle d'attaque. C'est vraiment sur les forums où je vois passer de façon constante, permanente, des attaques incessantes contre toutes les pratiques du BDSM. Ça, c'est devenu depuis quelques années un des sujets récurrents, un des sujets principaux sur lesquels il y a beaucoup d'excitation. La deuxième attaque connue contre le BDSM, c'est évidemment contre la domination-soumission, parce que par définition, domination évidemment, et soumission, par nature forcément, c'est le but de la manœuvre, ça parle du pouvoir et des relations de pouvoir. Bien entendu, des relations de pouvoir inégales forcément, hein, puisque ben, c'est le but même hein, de ce genre de pratique. Donc évidemment, vous vous en doutez, ça donne lieu à des attaques constantes, parce que ben c'est mal vu, parce que ça reproduit plus ou moins ben, des schémas qui sont problématiques dans la vie de tous les jours. Et là, le gros problème, évidemment, ben, c'est encore un problème de mauvaise foi, hein, évidemment. Et le gros souci, c'est que ben ces personnes qui attaquent le BDSM ou la domination-soumission refusent de voir la différence entre la réalité et la fiction. C'est-à-dire ce qu'on fait au lit, c'est pas la même chose que ce qu'on fait dans la vie normale quand on n'est pas au lit. Enfin, ce qui nous intéresse dans cet épisode, c'est le troisième angle d'attaque, et évidemment, ce sont les attaques contre le SM, le sadomasochisme. Donc là, évidemment, c'est très facile d'attaquer ces pratiques-là, il suffit d'utiliser des mots du genre torture, abus, barbarie, etc., et tout un tas de pseudo-jugements moraux et éthiques qui sont totalement hypocrites, hein, soyons bien clairs. Et c'est souvent accompagné aussi d'un autre problème, c'est que parmi les arguments fallacieux qui sont utilisés contre le SM, il y a l'argument que c'est pas possible d'avoir du plaisir dans la douleur. Alors le petit problème, c'est que si, c'est possible justement. Donc là, il y a une négation volontaire, totalement hypocrite, hein, d'une réalité qui est connue. Mais tout ça, vous inquiétez pas, hein, ça dérange pas les personnes qui y attaquent, parce que la bonne foi, l'honnêteté intellectuelle, se renseigner, etc., ça les intéresse pas. Ce genre de personnes restent volontairement dans une ignorance totale, avec un refus absolument complet hein, de se renseigner, de prendre du recul, etc. Ça les intéresse pas en fait. L'objectivité, l'honnêteté, ça les intéresse pas. Mais donc, hein, vous voyez, le SM, franchement, je pense que c'est le groupe de pratiques qui font partie du BDSM qui sont les plus faciles à attaquer. Il est très facile d'être de mauvaise foi, il est très facile d'utiliser des grands mots pour essayer de rendre les choses confuses, de mélanger le vrai et le faux, de mélanger le fantasme et la réalité, la fiction et la réalité. Et donc, c'est très facile hein, de s'en prendre à ce genre de pratiques avec de la mauvaise foi. Parce que, évidemment, il suffit de se référer à la réalité, qui n'est pas plaisante, elle, même si elle n'a rien à voir avec les pratiques de type SM, qui sont faites ben, dans un cadre BDSM, évidemment. Ça a à peu près autant de sens de les comparer que de dire que c'est la même chose de jouer à un jeu vidéo, par exemple, ou même quand on est enfant à jouer dans la cour de récréation, aux gendarmes et aux voleurs, par exemple, bon ben, personne de normal, personne de sensé ne va confondre ça avec la réalité, c'est évident. Mais quand on parle de sexe, et surtout quand on parle de sujets un petit peu délicats, comme le BDSM par exemple, le sens critique, l'esprit critique, le bon sens, tout ça, ça passe par la fenêtre. Donc cette confusion entre le BDSM et le SM, qui sont un sous-ensemble des pratiques du BDSM, ça pose plusieurs problèmes. D'abord, ça facilite les attaques contre le BDSM au sens le plus large, évidemment. Mais un autre problème aussi, c'est que si on les mélange, ça donne l'impression que la seule chose donc qui existe, c'est le SM, évidemment. Et le SM, ben... En réalité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça plaît pas à tout le monde, ça plaît pas à toutes les personnes qui font du BDSM. C'est-à-dire, vous pouvez trouver aisément des exemples de personnes qui font du BDSM depuis longtemps, parfois de façon intense, de façon très régulière ou vraiment quotidienne en fait, et qui vont vous dire « Ah oui, mais non, le SM, moi j'aime pas. » Ou bien « Mon ou ma partenaire n'aime pas, donc on n'en fait pas. » Donc ces personnes-là, par exemple, hein, peuvent faire des choses du genre domination-soumission, ou du bondage, ou toute autre variante à laquelle vous pouvez penser. Du coup, vous comprenez pourquoi il est important de bien faire comprendre que le SM n'est qu'une partie d'un ensemble, et en plus, que ce n'est pas parce que le mot BDSM existe que ça veut dire qu'on est obligé de tout faire. Le BDSM, c'est un regroupement un peu arbitraire de trois grandes catégories de pratiques. C'est un terme qui a été créé pour simplifier un petit peu le dialogue, pour permettre aux gens qui sont intéressés par ces sujets de parler un petit peu plus aisément avec un terme chapeau en fait. Mais c'est pas pour autant qu'on est obligé de faire toutes les pratiques qui sont à l'intérieur de ce terme. Et du coup, ben, s'il y a une confusion entre les deux, ça peut donner l'impression qu'il est obligatoire de faire du SM pour faire du BDSM, ce qui est faux, hein, je viens de l'expliquer. Et ça, ben, c'est un problème pour les personnes, par exemple, qui peuvent débuter ou qui veulent débuter, et qui peuvent être un peu effrayées parce que, pour elles, c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui se comprend tout à fait, et je viens de le dire, c'est fréquent, hein, qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés par cet angle-là. Donc la confusion entre les deux termes pose des problèmes, à la fois parce que ça permet de faire des attaques sur toutes les personnes qui font du BDSM, en plus des personnes qui font que du SM pur, et puis ça risque d'être mal compris ben, par les personnes qui sont intéressées par le sujet. Deuxième partie, la source de la confusion. Si on y réfléchit, c'est pas très compliqué de comprendre pourquoi il y a une confusion entre SM et BDSM. D'abord, le terme BDSM, c'est un terme récent. Il est apparu seulement en 1991, et il a mis pas mal de temps à se répandre. Au début, évidemment, il était resté uniquement utilisé par les personnes qui étaient entre guillemets à fond dans ce genre de sujet, qui lisaient des forums, etc. Et ça a été assez lent avant qu'on commence à voir le terme apparaître vraiment dans les discours un peu publics. Grosso modo, vous pouvez considérer que ça s'est vraiment développé dans les années 2000. Avant que ce terme BDSM, qui est un peu un terme chapeau donc, existe, il existait évidemment plein de termes déjà qui étaient utilisés, dont le sadomasochisme, bien entendu, qui était probablement le plus connu du grand public, avec éventuellement le bondage, mais même ça, ça reste à discuter. Et si vous regardez des livres, par exemple, qui étaient écrits même dans les années 2000, souvent vous voyez marqué quelque chose du genre « les sadomasos » ou « les sadomasochismes », ce genre de choses. Alors qu'en réalité, dans le livre, quand vous le lisez, il parle pas que de ça. Il parle de plein d'autres choses, y compris du bondage, des relations de domination-soumission, etc. Donc à l'origine, déjà, il y avait une confusion. C'est-à-dire, si on revient en arrière dans le temps, même si les personnes qui étaient « dans » entre guillemets ce genre de choses, elles voyaient la différence, mais pour le grand public, dans l'imaginaire qui s'est construit progressivement, eh ben, il y avait qu'une seule chose qui existait, c'était le SM. Et peut-être, donc, comme j'ai dit, un petit peu le bondage, mais c'était anecdotique. Le seul autre terme qui existait, c'était le fétichisme, qui était souvent confondu avec les pratiques de type SM, alors que ça n'a rien à voir. Le fétichisme, je vous rappelle, c'est une fascination de type sexuel qui est forte, une fixation, en fait, sur soit des parties du corps, soit des types d'objets, par exemple, du cuir ou de la fourrure, ce genre de choses. Ce sont deux choses distinctes, même s'il y a souvent des recouvrements, puisque beaucoup de gens qui font du BDSM ont des intérêts plus ou moins fétichistes, et vice-versa. Dans l'esprit du grand public, c'est souvent associé, c'est-à-dire les deux sont souvent compris comme étant la même chose, mais c'est à tort. Ensuite, il y a une autre chose qui est toute bête, mais je pense que quelque chose qui entretient la confusion, c'est que le terme BDSM, tout simplement, bah ça finit par SM, pas vrai? Donc quand vous utilisez ce terme, qu'est-ce qu'on retient le plus? Ce qu'on retient le plus, c'est pas BD, ce qu'on retient le plus, c'est SM. Je pense que ça, de façon basique, alors j'ai pas de preuves, hein, bien entendu, mais c'est dans mon esprit, je pense qu'il est possible que ça contribue pas mal à conserver, à propager en fait cette idée d'association entre le SM et le BDSM. Surtout que si vous connaissez pas trop ce que veut dire BDSM, si vous savez pas que c'est l'abréviation de Bondage and Discipline, Domination Soumission et Sadomasochisme, c'est assez logique de pas faire attention aux deux premières lettres en fait. Alors bon, je me répète, hein, mais c'est juste une hypothèse personnelle, je pense que ça peut avoir dans une certaine mesure contribué. Une autre source à peu près certaine hein, de la confusion, c'est que quand vous regardez tout ce qui est le porno, mais aussi toutes les représentations de ce qu'on appelle donc BDSM dans les films, les livres, les bandes dessinées, etc., les choses qui sont représentées dans les médias au sens le plus large sont souvent assez stéréotypées, mais surtout tombent souvent, presque toujours en fait, dans une certaine gamme de pratiques qui sont évidemment un sous-ensemble tout à fait infime hein, de ce qui forme le BDSM et qui sont les pratiques qu'on peut montrer. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le BDSM qu'on peut pas aisément montrer, et il y a beaucoup de choses qui sont, quand on les regarde, bah ennuyeuses. C'est-à-dire, elles sont super quand on les fait dans son couple, par exemple, mais quand on est le spectateur ou la spectatrice, c'est totalement ennuyeux. Et du coup, ce que vous voyez, par exemple, dans le porno, ça va être à peu près toujours les mêmes types de pratiques, même si elles ne représentent que un faible pourcentage de ce qui existe réellement, de ce qui est fait réellement. Et parmi les pratiques en question, ben vous avez quoi? Vous avez deux grandes choses, vous avez le bondage, donc tout ce qui est attache, typiquement quelqu'un qui est attaché sur un lit, hein. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez? Eh ben vous avez tout ce qui est le SM, c'est-à-dire la fessée, ça c'est vraiment le truc typique, hein. Le fouet, tordre les seins, ce genre de choses, bref, tout ce qui est entre guillemets douleur, et encore, même là-dedans, vous avez qu'une partie des choses qui existent qui sont montrées. Et donc, ben ça, par nature, hein, ça renforce l'idée que ces pratiques-là, c'est ça le BDSM. Alors évidemment, quand on s'y connaît un peu, on se rend compte que c'est totalement déformé, que c'est une vision extrêmement partielle des choses, mais quand on connaît pas, c'est assez naturel. Par exemple, quand on débute, hein, et surtout quand on est jeune et qu'on commence un peu à être titillé par ce genre de choses, qu'est-ce qu'on voit? On vous sert sans arrêt du bondage, de la fessée, des fouets, des choses de ce genre. Donc c'est naturel d'en conclure que le BDSM, c'est ça. C'est parfaitement normal, hein. Je veux dire, même moi, quand j'étais jeune, je voyais les choses de cette façon-là. Par conséquent, cette portion qui est assez faible, même si ce sont des choses très pratiquées, hein, c'est quand même une portion assez faible, et c'est ça qui l'emporte sur tout le reste. Du coup, c'est tout à fait naturel que ben les personnes qui voient ce genre de choses et qui ne connaissent le BDSM qu'à travers ça, qu'à travers ces représentations tout à fait partielles, fassent une confusion. C'est parfaitement normal, c'est pas du tout surprenant. Même si ça pose un problème, mais ça, évidemment... Et donc, hein, étant donné que le SM, c'était la chose la plus connue historiquement, avec, comme je disais déjà précédemment, hein, le bondage, Quand on a ensuite changé le terme pour essayer de trouver un terme chapeau un peu plus vaste qui puisse inclure plus de pratiques et être plus proche de la réalité, puisque d'utiliser le terme SM pour des pratiques de type domination-soumission ou même du bondage, c'est pas vraiment correct en fait, c'est même carrément incorrect si on y réfléchit clairement, hein. Mais avoir voulu remplacer par un terme plus large, ça n'a pas suffi à faire entrer dans l'imaginaire collectif et dans les perceptions de la majorité des gens qu'on parle plus la même chose en fait. Donc tout simplement on peut dire que le terme BDSM a hérité du passé, de la vision du passé que pouvaient avoir les gens, et comme en plus on n'a pas changé le terme SM par autre chose, c'est naturel que ce soit ce terme-là qui l'emporte. En plus de ça, évidemment, si on ajoute à tout ça que la plupart des gens ne se renseignent pas sur la sexualité, que l'éducation sexuelle, par exemple en France, est toujours pitoyable, que même dans les milieux médicaux, etc., les connaissances sur ces sujets-là sont ridicules et qu'il y reste un nombre incroyable d'idées fausses, d'idées reçues, etc., dans de telles conditions, c'est évident que les choses ne vont pas s'améliorer de façon simple, et c'est pas demain qu'il va y avoir une réalisation que « Ah, en fait, il y a des subtilités ». Donc je pense que les facteurs que je viens de présenter sont les facteurs qui sont à la source de ces confusions. Il y en a peut-être d'autres auxquels j'ai pas pensé, mais qui à mon sens seront de toute façon plus mineurs en comparaison de ces gros facteurs que je viens de présenter. Troisième partie, les dangers de ce mythe. Alors là, je vais un petit peu redire des choses que j'ai dites lors de la première partie. Dans mon esprit, il y a deux grands dangers, et un troisième qui est peut-être un peu moins grand, avec cette association, cette confusion donc. Alors avant tout, je voudrais préciser une chose. Tout ça, ça devrait pas être un problème. La réalité, c'est que SM, BDSM, tout ça, si c'était vraiment compris, il y aurait pas de soucis, et il y aurait pas donc de danger à confondre les termes. C'est-à-dire, ce serait pas vraiment un gros problème. Le souci, c'est que évidemment, tout ce qui est BDSM, SM, tout ça, c'est mal vu. Il y a plein de problèmes qui y sont associés, parce que ça touche à la sexualité. Et donc, malheureusement, de nos jours, on est dans une telle ignorance générale qu'il y a réellement un danger. Si nous vivions à une époque où ce genre de choses sont vraiment comprises et acceptées, ce qui veut pas dire pour autant d'ailleurs que tout le monde voudra en faire, je n'aurais même pas besoin de faire ce genre d'article et surtout j'aurais pas besoin de cette partie-ci. Alors ce point étant précisé, pourquoi est-ce que je parle de danger ? En fait, dans mon esprit, dans ce que j'ai vu aussi, dans mes lectures sur internet, sur des livres, des études, les forums, etc., je vois deux grands dangers, deux grands problèmes. Le premier vient de ce que j'appelle les ennemis du BDSM. Le deuxième, du système judiciaire. On pourrait dire aussi qu'il y en a un troisième, en parlant des milieux médicaux, mais là c'est un autre type de problème en fait. Alors je vais redétailler. Le premier problème, c'est un problème majeur, c'est l'existence de ce que j'appelle les ennemis du BDSM. C'est une catégorie de personnes qui est une petite minorité, mais une minorité qui est extrêmement vocale. Alors je l'ai déjà dit dans la première partie, dans ce genre de personnes, vous trouvez que des extrémistes, des gens qui sont totalement de mauvaise foi, hypocrites, et qui ont des attitudes plus ou moins violemment anti-sexe de façon générale, et très souvent, de façon quasi systématique en fait, des attitudes anti-hommes. C'est-à-dire des choses du genre « les hommes sont les grands méchants, sont des dominants abusifs qui abusent de pauvres femmes qui sont des victimes », ce genre d'attitude. Alors ces personnes-là ne sont pas intéressées par la vérité, par l'objectivité, etc. Déjà rien que parler de sexualité avec ces gens-là c'est impossible, et parler de choses un petit peu donc plus délicates comme le BDSM, c'est plus qu'impossible, faudra un nouveau terme pour dire à quel point c'est impossible. Le grand souci avec ces gens-là, c'est qu'ils attaquent sans relâche, depuis des dizaines et des dizaines d'années, le BDSM, en présentant évidemment les choses avec la plus totale mauvaise foi, les arguments les plus spécieux, les plus fallacieux qu'on puisse imaginer. Ils vous présentent les choses d'une façon qui a rien à voir avec la réalité, et quand je dis rien à voir avec la réalité, je veux dire tant que vous n'avez pas lu ou entendu ce que disent ces personnes-là, vous pouvez pas imaginer à quel point. C'est des choses du genre « les gens qui font du BDSM sont des assassins psychopathes cannibales », et à votre avis, d'où est-ce que ça leur vient cette idée-là ? Eh ben, c'est parce que ils vont vous prendre un exemple, un cas extraordinaire, le genre de chose qui se produit une fois tous les 10 ans et qui fait la une des journaux tellement c'est extraordinaire. C'est, ils parlent d'un cas criminel absolument stupéfiant, donc quelqu'un qui avait typiquement tué quelqu'un et qui l'avait mangé ensuite, donc un cannibale. Et dans les cas que j'ai vu passer, par exemple, ils utilisent le fait que le criminel avait utilisé, par exemple, des liens pour attacher la personne avant de la tuer, ce genre de choses, automatiquement ça devient du BDSM. Alors, j'exagère pas dans ce que je viens de dire, c'est exactement comme ça que c'est fait. Comme ça que ces personnes-là se comportent, et c'est là leurs arguments. J'invente rien, j'ai vraiment vu passer des exemples comme ça, où ils prennent des cas criminels flagrants qui ont rien à voir avec le BDSM, à part avoir un aspect superficiel comme la personne qui était attachée, et ça leur suffit pour conclure que les 99,999999% des personnes qui font du BDSM sont, des assassins criminels cannibales. Alors, j'ose espérer que ça vous paraît dément, mais je me répète, je n'exagère pas, c'est vraiment leur façon d'argumenter. Et ensuite, évidemment, dans le même ordre d'idées, leurs autres types d'arguments sont tout à fait similaires, c'est-à-dire on prend des cas horriblement abusifs, criminels, etc., les cas les plus choquants, évidemment, les exceptions, et on propage ça en disant, tout le monde est comme ça, pour essayer de donner une image. C'est à peu près comme dire, par exemple, que toutes les personnes qui conduisent sont des criminels, des assassins, etc., parce qu'il y a eu un cas choquant récemment de quelqu'un qui était ivre et qui a fauché une dizaine de personnes volontairement, parce que les personnes, elles étaient sur le passage piéton et que ça le gênait. Donc c'est évident, pour toute personne sensée, que ce sont des arguments totalement absurdes et fallacieux, mais c'est typique, dans les forums par exemple, vous trouvez ça sans arrêt. C'est-à-dire, tous les jours, vous avez ce genre de choses, on vous sort un cas particulier, extraordinaire, bien choquant à une préférence, et ensuite on dit, tout le monde fait la même chose, tout le monde est criminel. Bon, et puis évidemment, ces personnes aussi prennent au pied de la lettre tous les délires qu'on peut lire sur Internet. Donc par exemple, vous avez des forums comme le forum 4chan, qui sont un repère de trolls, vous avez ces personnes-là qui vont prendre des délires du trollisme total, des inventions, des mensonges, de toute façon, qui sont lus sur un de ces forums, et vont les prendre au pied de la lettre en disant « Ah bah voilà, il y a un tel délire sur ci, sur ça, il a dit qu'il avait assassiné 36 000 personnes et tout. » Et au lieu de voir que c'est du trollisme pur et que c'est des inventions et tout, ça va être utilisé comme étant une « preuve » entre guillemets, que les gens qui font du BDSM sont ceci, cela, des criminels, blablabla. Alors peut-être que ce que je vous décris là, ça vous choque, ça vous surprend, que ça vous paraît invraisemblable, mais c'est vraiment, comme ça, c'est choquant, mais c'est réellement la façon de se comporter de ces gens-là, et leurs arguments sont de ce calibre-là. C'est-à-dire, ces personnes, elles ont jamais de véritables arguments. Ce sont toujours des arguments fallacieux, etc., et toujours avec une mauvaise attitude odieuse, hypocrite au dernier degré. Et évidemment, pour des gens comme ça, c'est extrêmement utile d'avoir une confusion sur ce que c'est que le BDSM. Puisque tout ce qu'elles disent, ces personnes, est totalement déconnecté de la réalité. Mais ça les arrange d'avoir des confusions sur les termes, et ça les arrange notamment, d'avoir une confusion BDSM-SM, parce que dans l'esprit collectif, dans l'esprit du grand public, le SM, quand même, c'est sulfureux. C'est particulièrement sulfureux. Le SM, c'est quelque chose, quand même, qui est compris de façon extrêmement restreinte, par les personnes qui se sont pas réellement intéressées au sujet, et ça évoque, évidemment, des idées du genre Marquis de Sade, torture et choses de ce genre. Donc forcément, des images négatives. Et ça, c'est juteux. Pour des personnes qui sont de mauvaise foi, c'est particulièrement pratique de pouvoir attaquer tout le monde en utilisant les mauvaises images associées à une des parties du BDSM. Le deuxième gros problème que je vois, et ça c'est un problème majeur, c'est la perception qu'a le système judiciaire du BDSM. Alors, j'ai vu passer de véritables horreurs. C'est absolument incroyable de voir ce qu'on peut lire sur le sujet, qui est écrit par des avocats, des avocates, etc., ou même des décisions judiciaires. C'est absolument fou. J'ai vu passer des choses, mais j'avais du mal à croire qu'on puisse être aussi ignorant et ignorante. C'est incroyable. L'année dernière, il me semble, j'ai vu passer un article comme ça, qui était un article sur une publication, donc, pour des avocats, des juristes, etc., dans lequel l'auteur attaquait le BDSM, en fait, en parlant de barbarie, de torture, d'abus, etc. Et le gros problème, c'est que, évidemment, elle sait pas de quoi elle parle. C'est évident, je veux dire, ce qu'elle dit, c'est n'importe quoi, c'est totalement bidon, c'est totalement bourré d'arguments spécieux, d'une ignorance folle, mais le problème, c'est que, et là je pense que vous vous en doutez un peu, elle va surtout pas dire que c'est sa façon de voir les choses, c'est pas un blog. Là, on parle d'un article officiel, entre guillemets, qui est publié dans une publication juridique. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a quand même du poids. C'est quelque chose qui va être lu par d'autres juristes, au sens large, et qui va influencer leur perception du BDSM. Et ce qui est problématique avec ce genre de personnes, c'est qu'elle se présente toujours comme étant experte entre guillemets, c'est-à-dire je sais de quoi je parle. Forcément, parce que vous n'allez pas écrire, enfin en théorie, vous n'allez pas écrire un article entier sur un sujet sur lequel vous connaissez rien. Si, ce genre de personnes, ça les gêne pas. Donc vous avez des pages et des pages d'accusations absolument immondes, odieuses, totalement déconnectées de la réalité, totalement fallacieuses, hypocrites, enfin, tout y passe, je pourrais en parler pendant 10 minutes. L'ignorance, la mauvaise foi la plus totale. Et le problème, c'est que c'est pas juste ses opinions personnelles, ce sont ses opinions présentées comme étant des faits et qui vont influencer, forcément, les personnes qui vont lire les articles en question. Et ça, c'est un gros problème. Imaginez un petit peu que vous vous retrouviez, par exemple, prenons quelque chose d'assez classique, bon, un divorce. Même un divorce qui se passe pas mal, hein. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de choses outrancières, rien de cela. Juste un divorce classique, bon voilà, on s'entend plus, on veut se séparer. Imaginez maintenant que, au moment où il y a des discussions sur le sujet, ça se sache qu'une des deux parties, ou les deux parties, faisaient du BDSM. Imaginez un peu la réaction quand vous êtes face à des juges, des avocats, etc., qui ont dans leur tête que, si vous faites du BDSM, vous êtes donc malade mental, torture, barbarie, abusif, etc. Et en plus, évidemment, vous pouvez compter à 100%, vous êtes certain ou certaine, qu'il y aura aussi tous les stéréotypes sexistes. C'est-à-dire, si vous êtes un homme, vous êtes forcément dominant et abusif, si vous êtes une femme, vous êtes forcément soumise et vous êtes une victime. Là, vous pouvez être quasiment certain qu'il y aura ça dans la conversation. Je vous laisse imaginer les conséquences. Je vous laisse imaginer si vous avez des discussions sur la garde des enfants, avec des gens qui ont en tête que ben vous êtes un monstre, etc. Et ben, ces choses-là, ça a des vrais impacts dans le monde réel. Il y a eu des choses scandaleuses qui se sont passées, par exemple, aux USA. J'avais lu un article où il y avait des personnes aux USA, on leur avait retiré leurs enfants, parce qu'ils faisaient du BDSM. Soyons bien clairs, ils faisaient du BDSM dans leur couple, pas avec les enfants, évidemment, hein, je veux dire, c'est évident, mais soyons clairs. Les enfants, ils avaient rien à voir avec ça, je veux dire, il y a énormément de gens qui ont des enfants et qui font du BDSM, ça n'a rien à voir, ce sont deux choses distinctes, ce qu'on fait au lit, c'est pas la même chose que ce qu'on fait dans la vie de famille normale ou à l'extérieur, c'est évident. Ben, n'empêche que ces gens-là, de façon absolument scandaleuse, se sont retrouvés donc avec une confrontation hyper violente avec les services sociaux, et contre ce genre de personnes, ce genre d'administration, vous pouvez rien faire. Donc vous voyez, ce genre de choses, ce genre d'idées fausses qui sont poussées par exemple par les ennemis du BDSM, ça a des vraies conséquences, et ça peut être dramatique. Enfin, je vais rapidement parler du cas du problème du milieu médical, hein. Alors là, le problème est plus exactement le même. J'avais déjà parlé dans des épisodes et pas mal dans les articles de mon site du problème avec la psychiatrie, qui est historiquement l'ennemi numéro 1 du BDSM, et à qui on doit, à cause du 19e siècle avec Kraft et Bing, la pathologisation du BDSM, c'est-à-dire que c'est devenu une maladie, et qui dit maladie dit quelque chose qui se soigne, quelque chose qui est mauvais, qu'on veut pas, et qui se soigne. C'est assez proche hein, de l'attitude face, par exemple, à l'homosexualité. Alors de nos jours, ça, on en est quand même un peu revenu, même s'il y a encore beaucoup de problèmes. Mais maintenant, le problème qui reste, qui est très fort, et c'est ça dont je parlais, c'est que, comme il y a beaucoup de préjugés, de stéréotypes, etc. sur BDSM, il est extrêmement difficile d'aller en parler à des médecins. Il y a eu des sondages, hein, et la quasi-totalité des personnes qui font du BDSM n'en parlent jamais à leur médecin traitant. Même quand bah, il y aurait des questions à poser, quand il y aurait des soucis, des problèmes, notamment, par exemple, quand on fait certaines pratiques qui laissent des marques, des bleus, etc., bah, le SM, hein. Eh ben, on n'ose pas en parler parce qu'on a peur d'être jugé, et cette peur, elle est pas basée sur rien. Si vous regardez dans les milieux de type psy, tout ce qui est psychologie, psychiatrie, etc., si jamais vous en parlez, vous avez de fortes chances que, ben, la personne, elle s'offense, entre guillemets, qu'elle comprenne pas du tout ce que vous voulez dire, qu'elle pense encore, alors que normalement, théoriquement, hein, c'est supposé ne plus être le cas, mais ça existe encore, qu'elle pense donc, ben, que vous êtes malade, entre guillemets, qu'il faut vous soigner. Alors ça aussi, hein, ce sont pas des paroles en l'air, parce que j'ai déjà personnellement rencontré des gens qui ont eu ce genre de mauvaise surprise, et vous en trouverez plein d'exemples sur Internet. Donc vous voyez, ce mythe, il est pas anodin. Il est vraiment pas anodin, il a des ramifications dans toutes les directions. Ça peut être une gêne pour les gens qui, par exemple, voudraient se lancer dans BDSM et qui comprennent pas la différence entre l'ESM et toutes les autres très nombreuses pratiques qui font partie du BDSM. Mais surtout, comme je l'ai expliqué dans les parties précédentes, le gros problème, c'est face à l'extérieur. Parce que le BDSM reste donc cible de beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de problèmes. Dans les très nombreuses pratiques du BDSM, le SM, les pratiques qui sont regroupées sous le terme SM, font partie des plus sulfureuses, au moins dans l'esprit du grand public. Donc évidemment, ben, vous avez un gros souci à ce niveau-là, comme j'ai dit tout à l'heure. Et enfin, vous avez le très gros problème, qui est l'éléphant dans la pièce, hein, c'est le problème face à la justice, face aux institutions en général, aux administrations, etc. Si vous tombez sur des personnes qui ont des pouvoirs, de l'influence sur vous, notamment du côté administratif, ou surtout quand il y a des problèmes avec les enfants, alors là, vous avez de sérieux problèmes si jamais les personnes en face ont de gros préjugés sur le BDSM, parce qu'il y a le risque donc ben, qu'on interprète ce que vous faites comme étant des actes de barbarie, etc. Et le fait d'avoir une confusion avec le SM rend les choses pires, puisque l'association dans l'esprit de beaucoup de gens, de la plupart des gens en fait, qui est faite entre le SM et tout un tas de choses qui sont extrêmement violentes, etc., Cette association, elle est extrêmement forte, et donc vous avez une presque certitude de tomber face à des gens qui vont comprendre « Ah, vous faites du BDSM, ça veut dire « vous faites du SM », ça veut dire que ben vous êtes un ou une monstre ». Et là, quand la conversation elle part dans cette direction-là, eh ben bonne chance pour essayer de vous faire comprendre, pour essayer de faire valoir vos droits, etc. Bonne chance. C'est un vrai problème. Et un problème qui n'est pas aisé à résoudre, ben parce que, évidemment, hein, je l'ai déjà dit plein de fois, l'ignorance sur la sexualité est tellement forte que, de façon tout à fait prévisible, évidemment, pour des choses qui sont un petit peu plus hors du commun, c'est bien pire, je vous surprends pas, je l'ai déjà dit plein de fois. Donc, je ne pense pas que ça s'améliore demain, et ça risque d'être assez difficile de faire passer le message. C'est pourquoi, hein, je me répète, c'est pourquoi il est vraiment très important de se battre contre toutes les idées fausses, tous les mythes, etc., en général, qui portent sur le BDSM en particulier, et évidemment, de façon plus générale, la sexualité. Je me répète, hein, mais tout ça, ça a des vraies conséquences dans la vie de tous les jours. La perception sur le BDSM s'est un petit peu améliorée, et en tout cas, au moins, on en parle un peu plus, ça aide. Moi, je vois, quand j'étais jeune, hein, ça aurait été absolument impossible de se défendre face à des accusations comme celles dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça aurait été impossible. Il n'y a pas d'autre mot, ça aurait été impossible. Au moins, de nos jours, comme on en parle un petit peu plus ouvertement, il y aurait certainement plus moyen quand même de se défendre. Mais ça reste quand même un très très gros problème. Et bon, malheureusement, comme je le dis depuis le départ que je parle donc de BDSM dans mes articles et mes épisodes de podcast, il y a eu quelques améliorations, mais c'est pas demain qu'on aura vraiment une compréhension, qu'on aura vraiment un enseignement correct, des explications correctes, etc. Donc la situation risque pas franchement de radicalement s'améliorer, pas avant très 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 longtemps. Je suis vraiment pas du tout optimiste à ce niveau-là. En tout cas, si vous avez écouté cet épisode et que ben le BDSM vous connaissiez pas encore trop, que vous savez pas encore exactement où ça commence, où ça termine, ce qui est normal hein, si vous êtes encore dans une phase d'exploration ou de débuter, rappelez-vous bien donc, hein, le BDSM c'est beaucoup de choses, le SM ça en fait partie, mais c'est pas une obligation. Si le SM, le côté douleur, humiliation, c'est pas votre truc, eh ben c'est pas un problème, vous n'en faites pas. Ça veut pas dire pour autant que vous faites pas du BDSM. On n'est pas obligé de faire toutes les catégories de pratiques pour faire du BDSM. Et si jamais ce côté SM, c'était un peu la chose qui vous faisait peur, qui vous faisait hésiter à vous lancer dans le BDSM, par exemple, à essayer, ou à en parler vraiment ouvertement, eh ben maintenant, je pense que je vous aurais rassuré en disant tout ça. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de raison de se priver d'autres activités BDSM. C'est à chaque personne de sélectionner quelles sont les activités qu'elle aime ou qu'elle aime pas. Chacun ses idées. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, des commentaires à faire sur ce que j'ai dit dans cet épisode, ou sur d'autres épisodes d'ailleurs, vous pouvez me joindre en utilisant par exemple la page contact de mon site, univers-bdsm.info. Sur cette page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message, en restant anonyme si vous le désirez. Vous y trouverez aussi mon adresse email, si vous voulez m'écrire directement. Enfin, vous pouvez aussi trouver mon adresse email sur le site du podcast, à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, surtout n'hésitez pas, je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.